serai à mi-parcours de cette retraite ce soir. Ça sera la mi-parcours. Marcher ensemble dans l'amour et nous voici arrivés à la vérité. Il était temps. La vérité au cœur de ce parcours, la vérité aussi au cœur de notre vie et la vérité sur la vérité aussi. Alors c'est intéressant malgré tout qu'elle suive le mot de l'amour puisque amour et vérité se rencontrent. Ça tombe bien. Je ne sais pas si, encore une fois, les personnes qui ont élaboré cette phrase ont fait attention à toutes ces subtilités qui peuvent se suivre. Si oui, elles sont formidables, sinon l'Esprit-Saint a soufflé. Et c'est peut-être les deux, d'ailleurs. Donc, la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est la question de Pilate. Ce à quoi la réponse de Jésus a été quoi? Un grand silence. Voilà, mon topo est terminé. Je ne peux pas faire mieux et mieux dire que Jésus. Alors, on va prendre la question autrement. On va prendre cette thématique de la vérité autrement que par la réponse. On va l'aborder par la question. Dans la Bible, les questions de Dieu ne sont jamais anodines. Elles changent le cours de la vie. Et elle provoque à la vérité. Donc la question qui est le plus important finalement. M'aimes-tu? Qu'as-tu fait de ton frère? Où te caches-tu? Des interrogations parfois douloureuses, mais qui font avancer l'homme et la femme, les placent soudain devant une nouvelle responsabilité, leur ouvrent aussi souvent une perspective à laquelle ils n'auraient jamais pensé. Qu'as-tu fait de ton frère? M'aimes-tu? Où te caches-tu? Dieu n'attend pas forcément une réponse bien formulée. Le catéchisme, ça c'est un truc de bonhomme. Mais ce n'est pas Dieu qui a écrit le catéchisme. Dieu n'attend pas de formule bien huilée, bien formulée, comme un maître attend de son élève brillant la réponse à sa question. Ce que Dieu veut, c'est que la femme et l'homme lui parlent. Tout simplement, mais en vérité, en vérité. Alors Dieu, le maître des questions. Beaucoup de croyants pensent pouvoir trouver dans la Bible des réponses à leurs questions. Pourtant, bien souvent, la question a sa propre valeur, car le Dieu de la Bible est un Dieu de désir qui invite et qui questionne. Si j'osais, je le dirais, mais j'ose. C'est assez hérétique d'ouvrir la Bible en disant « j'ai une question » et voilà, tu vas voir la réponse ici qui apparaît quand tu l'ouvres au hasard. Bon, Dieu ne vous prend pas pour des idiots. On a vu ce que ça a fait. Ça a été l'occasion d'abus terribles et de manipulations terribles. Non, non, c'est pas comme ça que Dieu fait. Dieu ne donne pas des réponses, il pose des questions. Les non-croyants imaginent souvent que les croyants sont des personnes qui ont des réponses. Des certitudes. On est déjà venu vous voir, ma sœur. Alors, c'est quoi la vérité? Dites-moi. Il est comment, Dieu? Ça se passe comment? C'est comment? C'est comment après la mort? Dites-moi, je veux savoir. Vous avez la vérité, vous êtes religieuse. Vous savez, vous, comment ça se passe? Et quand je dis sœur, je dis frère aussi. Hein. Et on se trouve parfois bien désarmé. Bien, bien désarmé, même souvent désarmé. Parce qu'évidemment, les certitudes, nous ne les avons pas. La vérité n'est pas affaire de certitudes. La vérité est affaire de questions. La Bible n'est pas le grand livre des réponses, mais un livre complexe où les questions jouent un rôle majeur. Elles sont là pour nous faire comprendre comment vivre sur terre et surtout comment entrer en communion avec Dieu. Des redites et des silences. Il y a une quarantaine d'années, certains professeurs de littérature ont eu l'idée de lire la Bible comme un texte littéraire. Et ils ont été charmés. Ils ont découvert et mis en lumière la façon dont les auteurs bibliques ont conçu des récits pour nous amener à nous poser des questions. Pas bien sûr que ces auteurs n'eussent pas de réponse ou fussent de purs artistes, mais ils ont souvent écrit pour nous intriguer et nous amener à réfléchir. Prenons quelques exemples. Tout d'abord, ils ont raconté deux fois la même histoire, avec des différences. C'est l'histoire de la création. Vous savez que Genèse 1 et Genèse 2 ne sont pas pareils, et pourtant, c'est l'histoire de la création. Ou bien le don de la Torah aussi, au Sinaï. Des différences. Et puis même quatre évangiles. Quatre évangiles qui se recoupent à peu près, mais qui ne disent pas exactement la même chose. Pourquoi est-ce que Jean ne parle pas de Bethléem et de la crèche et tout ça? Pourquoi est-ce que Matthieu ne parle pas de l'Annonciation? Pourtant des choses importantes. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été important pour eux, manifestement? Pourquoi est-ce que Marc va si vite et ne développe pas les paraboles, ne développe pas les enseignements? Pourquoi y a-t-il finalement quatre textes différents? Encore une fois, l'histoire est à peu près la même, hein, ça finit de la même manière, il ressuscite à la fin. Mais les étapes ne sont pas les mêmes. Le lecteur est obligé de se poser des questions et de chercher dans le livre lui-même les éléments de réponse. Ils ont aussi raconté plusieurs versions d'un épisode analogue. Par exemple, Abraham faisait passer sa femme pour sa sœur, ou David épargnait Saül. Là encore, cela nous intrigue. Il faut une grande attention aux détails pour tenter une réponse. Parfois aussi, ils ont laissé dans les textes des blancs, des ellipses. Le cycle de Samuel ou de David en est riche. Uri, le mari de Bethsabée, était-il au courant de la liaison de sa femme avec le roi? Cela n'est pas dit. D'un autre côté, son comportement est un peu étranger et on se demande comment il peut ignorer ce que tout le monde sait. Il nous faut lire le texte avec les deux hypothèses et voir laquelle est la plus convaincante. On pourrait multiplier les exemples. Et l'on remarque que les évangiles poursuivent cette tradition. Ils racontent parfois le même épisode de façon différente ou présentent deux versions d'une même histoire. La dernière scène n'est pas racontée par Saint Jean comme par ses prédécesseurs. Et si l'on connaît le geste que Jésus a posé ce soir-là, on ignore ses paroles. C'est le contraire pour les synoptiques. On n'a que des paroles et pas le geste du lavement des pieds. La pêche miraculeuse où Jésus aide un groupe d'apôtres à prendre de nombreux poissons après une nuit d'échecs se trouve au début de la vie publique dans Luc et après la résurrection dans Jean. Bref, les récits bibliques obligent les lecteurs à être curieux, attentifs et à se poser des questions. Et ce sont souvent les enfants qui posent les meilleures questions. Pourquoi Dieu crée la lumière avant d'avoir créé le soleil? C'est la Genèse. N'est-ce pas le soleil qui donne la lumière? Et on comprend alors que cette lumière est d'une nature spéciale. Lorsque Marie-Madeleine rencontre Jésus au matin de Pâques, ce sont souvent les enfants qui demandent, mais pourquoi elle ne le reconnaît pas si elle le connaît si bien? Pourquoi est-il différent, ce Jésus? Et l'on comprend que même les apôtres et les saintes femmes ont eu à poser un acte de foi pour voir le ressuscité et qu'ils ne sont pas si différents de nous. Alors, un Dieu qui questionne. Il y a un deuxième élément à prendre en compte. À certains moments, Dieu lui-même nous pose des questions. Dès qu'il crée l'être humain, il lui pose des questions. Caïn fait une offrande qui n'est pas acceptée. Pourquoi? La réponse n'est pas facile à donner. Parfois, des choses arrivent que nous ne comprenons pas. Mais au lieu de réfléchir, Caïn, comme nous souvent, s'enferme sur lui-même et se bute. Dieu vient alors lui parler et l'interroge. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Genèse 4. Il s'intéresse à ce qui le travaille et lui demande une parole. Mais Caïn ne répond pas. Puis peu après, submergé par la jalousie, tue son frère Abel. Dieu lui demande alors, où est ton frère Abel? Nous connaissons tous la réponse cavalière de Caïn. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Nous comprenons alors que tout être humain est notre frère et que la question fondamentale que Dieu pose à chacun d'entre nous est « As-tu pris soin de ton frère ?» Au long de sa vie, Jésus posera-t-il une autre question? Ainsi, les questions de Dieu visent-elles souvent à nous faire prendre conscience de notre fraternité? Mais ce n'est pas le seul type de question que Dieu nous pose. Dieu nous pose aussi des questions pour que nous entrions en relation aimante avec lui. Son but principal n'est pas de nous donner une loi ou des réponses, des principes ou une morale, mais plutôt de nous inviter à entrer en communion avec lui. Et il y a une question qui se détache sur cet horizon, c'est la question messianique par excellence. La question du Messie, c'est laquelle? Que veux-tu que je fasse pour toi? Marc 10 notamment. Mais cette question vient du roi David lui-même, dans le deuxième livre de Samuel. À la fin de sa vie, instruit par les épreuves, plus humble, interrogé par les habitants de Gabaon, il pose cette question. C'est la question d'une personne tournée vers les autres et qui prend le temps de les écouter. Jésus la posera deux fois. La première fois, il l'adresse à Jacques et Jean, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Marc 10. Et peu après, il la pose à Bartimée, juste avant d'entrer dans Jérusalem. Jacques et Jean, qui appartiennent aux douze, demandent des places d'honneur dans le royaume, on le verra bientôt. Ils semblent n'avoir pas compris grand-chose de Jésus et de son désir. Bartimée, qui n'apparaît qu'une fois dans l'Évangile pour disparaître aussitôt, n'a rencontré Jésus qu'une seule fois, mais lui semble avoir tout compris. Que nous apprend ce contraste? Jacques et Jean, qui sont censés accompagner Jésus, montrent l'éloignement de leur cœur, tandis que Bartimée l'aveugle non seulement voit où conduit le chemin de Jésus, mais il l'y suit. Dans cette phrase « Que veux-tu que je fasse pour toi ?», Jésus exprime tout son désir de Messie, répondre à nos désirs véritables, désirs de vie, de relation, de communion, de quête de la vérité. Que veux-tu que je fasse pour toi? En vrai? Vraiment? Profondément? Pour toi? De quoi as-tu besoin, toi? Il exprime en même temps le désir de Dieu qui est identique. Il désire se donner à nous autant qu'il le peut, selon son dessein divin, mais uniquement dans une relation de vérité. Quand vous alliez communier à la messe, juste avant de communier justement, il y a cette parole, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous m'êtes guéri de quoi? Qui met le complément derrière par rapport à sa propre expérience et sa propre histoire? J'ai besoin d'être guéri de quoi? Et on ne peut pas être guéri en général. Si vous allez chez le médecin, ça vous est déjà arrivé, je pense, que vous êtes dans la salle d'attente, imaginez la scène. Vous êtes dans la salle d'attente, il y a 10 personnes qui sont là à attendre comme vous. Le médecin ouvre la porte de la salle d'attente et dit « Pour tout le monde, aspirine !» Et il ferme la porte. Vous allez dire « Ça va marcher, hein, pour certains qui ont mal à la tête, ok, ça peut marcher. Mais vous qui avez mal aux pieds parce que je ne sais pas quoi, vous avez fait une chute, bon, vous pouvez prendre autant d'aspirine que vous voulez, il ne va pas se passer grand-chose. » C'est pareil au moment de la communion. Je serai guéri. Mais guéri de quoi? On ne peut pas être guéri en général ou avec des grands mots de généralité. « Tu
guéris de mon orgueil. Ok, très bien. Enfin, l'orgueil, ça veut dire quoi, ma sœur? L'orgueil, c'est trop vague. Guéris de quoi? Où est-ce qu'il y a un trou dans ta vie? Où est-ce qu'il y a un problème de vérité qui n'est pas posé? Et de réalité, de concordance? C'est pas une question morale. C'est simplement de pointer la blessure. Une guérison, c'est pas fait pour nous faire plus mal. Hein. Jésus est pas là pour pointer nos défauts en disant « Ah ah, toi t'as fait ceci, je vais le noter dans le bon livre et puis attends, attends à la fin de ta vie. On va regarder la moyenne et tu vas voir si tu l'as ou pas. » Guérir, soigner, prendre soin, voilà ce que veut Dieu. Certainement pas nous condamner ou nous enfoncer dans nos douleurs. Alors de quoi as-tu besoin d'être guéri? Toi qui à chaque communion dis seulement une parole et je serai guéri. Il faut mettre le complément. Alors ne le dites pas à haute voix, hein, ça ne regarde pas les voisins. Mais personnellement, où est-ce que j'ai besoin d'avoir la vérité de Dieu qui me soigne, me guérisse et me fait aller mieux, me fait aller bien? Que veux-tu que je fasse pour toi? Cette question est destinée à révéler notre désir, et dans le même mouvement, elle nous révèle le désir de Dieu lui-même et nous invite à parler sans crainte, en vérité, à écouter et à descendre en nous-mêmes, comme le Fils prodigue. Qu'est-ce que je désire vraiment? Notre désir peut être trouble, confus, maladroit. Mais Jésus ne l'écarte pas pour autant. C'est pas un problème, ça. Jacques et Jean nous sont là d'un grand secours, car Jésus n'écoute pas seulement la demande idéale de Bartimée, il écoute aussi la demande ambiguë des disciples. Tu veux être à côté, on veut être à côté de toi, dans ta gloire, etc. Et il accepte les deux demandes. Et il les garde à sa suite, malgré leur incompréhension, malgré leur ambition, malgré leur erreur d'optique sur Dieu. C'est un bon encouragement. À la fois Bartimée qui a tout compris, suit Jésus, et à la fois nos braves apôtres, quand même, hein, Jacques et Jean, c'est pas les derniers des Mohicans, hein, c'est pas n'importe qui, mais ils ont rien compris. Mais ils peuvent suivre quand même, ils peuvent rester encore. C'est rassurant. Les questions de Dieu se ramènent finalement à une seule. Que désires-tu vraiment? Quelle est ta vérité? Il faut parfois une vie pour arriver à répondre à Dieu de façon juste et entrer dans une relation gratuite et libre, d'égal à égal avec lui. Au fond, c'est ce qu'il désire, comme le montre le livre du Cantique des Cantiques, qu'on a déjà évoqué il y a 2 jours. Non, hier, pardon. Où les deux amants se cherchent, se recherchent sans cesse, dans une liberté et une réciprocité parfaite. D'Abraham à Jésus, en passant par Moïse et Élie, la Bible est rythmée par des grands dialogues, des discussions passionnées, où se joue notre vie. Laissons Dieu nous apprendre à poser les bonnes questions, la bonne question. Il arrive souvent dans la vie que les questions nous fassent davantage avancer que les réponses. Et Dieu nous aide à devenir des êtres de questions, des êtres qui lui ressemblent et qui donc savent poser les questions. Car Dieu est un être de dialogue, de conversation et de questions. De la question, il en a même fait finalement le cœur de notre moteur quotidien. Faisons un tour par le désert. Rappelez-vous, nous sommes partis le premier jour pour marcher et nous avons regardé, observé ce fameux peuple qui sort d'Égypte. Ils sortent d'Égypte et le texte nous dit qu'à un moment donné, ils ont faim. Normal. Et pour nourriture, qu'est-ce qu'ils vont avoir? La manne. Vous vous rappelez de cette histoire. Manne en hébreu, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une question
Manhu, qu'est-ce que c'est? Leur nourriture est une question. Ce qui va leur les faire vivre, ce qui va les faire avancer, c'est pas un steak. J'allais dire une tranche de jambon, mais c'est des juifs, donc ça ne marche pas. Mais c'est une question qui va être le moteur de toute leur vie. C'est la question, la quête de ne jamais être arrivé, de ne jamais savoir, de ne jamais posséder Dieu, de comprendre qu'il nous échappe toujours. Et quand 2, 3, 4, peut-être plus encore fois par jour, vous dites « Donne-nous notre pain de ce jour », vous pensez à quoi? Au repas de midi? Notre pain de ce jour, donne-moi encore le désir de te connaître, Seigneur. Donne-moi des questions. Croyez franchement qu'au milieu du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, soit des choses larges, très très larges, on arrive à donne-nous le repas de midi? Pourquoi pas, hein? C'est pas impossible. Dieu non plus n'est pas complètement coupé, évidemment, de nos besoins et de nos contingences humaines. Mais quand même, c'est le Notre Père, quoi. C'est pas juste une prière pour le repas. Et quand on a en arrière-plan cette nourriture qui a conduit le peuple, qui était une question, on comprend, ou au moins on peut comprendre, bien sûr qu'il faut manger à midi et rendre grâce pour le Seigneur, et même le matin et le soir, et pourquoi pas un goûter, c'est pas un souci. Mais c'est de dire, voilà, que je puisse avoir cette quête de la vérité en moi, comme le pain de ma journée, comme cette nourriture qui me fait avancer et vivre, que je te désire finalement. Désir, vérité, quête, tout ça, ça se tricote ensemble. C'est des fils de laine qui se tricotent ensemble. Alors, on va ouvrir par quelques questions, comme d'habitude, encore. Je vais vous donner d'abord la feuille du jour. Cherche des réponses ou qui pose des questions. Ai-je peur de l'inconnu et du doute, ou les vois-je comme des opportunités d'apprentissage et de croissance? Suis-je capable de poser des questions ouvertes et d'écouter attentivement les réponses, même si elles ne me satisfont pas pleinement? Est-ce que je le vois comme un être qui a toutes les... Est-ce que, par rapport à Dieu, pardon. Est-ce que je vois Dieu comme un être qui a toutes les réponses et qui me juge si je ne les connais pas? Ou est-ce que je le vois comme un être de dialogue et de questionnement qui m'invite à cheminer avec lui et à découvrir la vérité par moi-même? Suis-je capable de discerner mes désirs profonds, de les exprimer clairement? Est-ce que je suis à l'écoute de mon intuition, de mes aspirations? Suis-je prêt à faire face à mes peurs et à mes doutes pour réaliser mes aspirations les plus profondes? Pas des questions qui se résolvent ou auxquelles on peut répondre en quelques minutes, même pas quelques heures, je pense qu'il faut une vie. Mais voilà, osons les regarder. Et puis de vous laisser aussi avec ce passage du livre d'Isaïe au chapitre 55. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Cet espace, aussi haut que le ciel de la terre, aussi longtemps que doit prendre le temps justement pour une graine de germer et de donner du fruit,
cet espace et le temps des questions, des pourquoi, qui nous conduisent peu à peu à la vérité. Oh, bien sûr, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est bien ce que nous dira le Seigneur. Le chemin, vous avez commencé à l'emprunter en marchant. La vérité, on commence à l'aborder aujourd'hui. Et la vie, selon la manière de vivre, nous en commencerons à la percevoir demain avec l'autre mot et manière de vivre dans la communion et la mission. Là encore, votre phrase est plus qu'inspirée.